Et vous écoutez France Culture. Au fond, ce n'est pas vous qui choisissez les films, mais les films qui vous choisissent. Jean-Baptiste Torré. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Un canardeur niçois embusqué en plein ciel, des vampires texans héliophobes, un avicultueur italien serial killer et les amours zoophiles d'une femme de diplomate avec Make My Day, la collection de Blu-ray et DVD créée par Jean-Baptiste Torré pour Canal+. Le mauvais genre a trouvé sa charte graphique et son guide chant. L'homme est ce soir de passage parmi nous, l'occasion d'évoquer également avec lui l'hommage français rendu ce mois à Peter Bogdanovich par les éditions Carlotta. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui ressemblera ce soir à ce que l'on appelle au ministère de l'Intérieur la reconstitution de Ligue dissoute. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir François.
Je vais pas vous appeler Jean-Baptiste Torré quand même.
Non, ça serait grotesque, non. En fait c'est le mauvais genre Canal historique.
Voilà, c'est ça.
C'est mon côté corse qui ressort, donc le mauvais genre Canal historique avec vous et Philippe Rouillet et Céline qui est en face de moi.
Merci en tout cas d'être avec nous ce soir pour effectivement ces films qui vous ont choisi, on peut le dire, parce que j'ai bien aimé cette phrase qui ne participe pas de la collection elle-même, mais d'un volume d'entretien que vous avez publié chez Carlotta avec Peter Bogdanovich. Et c'est un moment, une remarque que vous lui faites, c'est intéressant parce que ça n'est pas une phrase que lui a dite, ça n'est pas quelque chose qui est pris dans un raisonnement, c'est une phrase qui arrive comme ça. On a l'impression que pour les cinéphiles, c'est les films qui les choisissent. C'est votre cas.
En fait, parce que le temps passe et on vieillit et on peu à peu notre rapport, je pense, aux films et à ce qu'on aime, sur les films dont on aime parler, sur lesquels on aime écrire, on se met un peu à le voir dans le rétroviseur et en se disant mais est-ce que c'est forcément moi qui choisis les films? Autrement dit, on voit bien quand on veut souvent écrire un texte sur un film qui nous parle pas directement, on n'est pas très bon. Dès qu'il n'y a pas un rapport intime avec un film, on peut faire de la commande. Plein de gens le font très très mal et sans aucun problème. Mais quand on a vraiment envie de, quand on considère que le cinéma est quelque chose qui coule dans vos veines, ce qui est le cas ici, on se rend compte finalement que vous ayez 20, 30, 40 ans, 50 ans, les films sur lesquels vous écrivez, le cinéma sur lequel vous écrivez, en fait, ça fait longtemps qu'ils sont en vous. Et que vous avez découvert sans même pas forcément les comprendre d'ailleurs. Et donc, je pense que, en fait, c'est souvent réglé avec un truc avec l'enfance ou l'adolescence de la cinéphilie. Je pense que ça reste un truc d'enfance, la cinéphilie, fondamentalement. C'est là qu'on se forge. On n'est pas le même cinéphile quand on a vu des films quand on avait 5, 6, 7, 8 ans que quand on les découvre à 18 ou 20. C'est un rapport qui est pas du tout le même. Et moi, je suis convaincu aujourd'hui, mais j'aurais sans doute pas dit ça il y a 15 ou 20 ans, évidemment, que finalement, je me rends compte, je crois être maître des choix que je fais en me disant j'ai envie de travailler sur tel cinéaste, sur tel type de cinématographie, etc. Et en réalité, non. Ça, c'est beaucoup plus profond. Donc, en fait, la décision a été prise à mon corps défendant bien avant, enfin, à mon esprit défendant. Et d'où cette phrase que vous avez mis en ouverture de l'émission.
Non, qui me semble bien définir le propos, parce que le propos ce soir, c'est donc cette collection Make My Day, citation limpide pour les amateurs de mauvais genre, donc à Clint Eastwood, on peut dire de quel film?
Sudden Impact,
avec quatre premiers titres donc dans cette collection chez Canal+, Max Mon Amour d'Oshima, Near Dark de Catherine Bigelow, Six Femmes pour l'Assassin de Mario Bava, Sans Mobile Apparent de Philippe Labreau et La Mort a pendu un œuf de Giulio Questi. Bon, il n'y a qu'à dire les films, on dit après qui dirige cette collection, je pense qu'il y aurait peu de chances de se tromper. Philippe Rouillet, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vrai ça, quand on voit la liste des cinq premiers opus de la collection,
Avec le Make My Day, voilà, c'est quand même pas mal. Et je souscris à la formule de Jean-Baptiste que vous mettiez en exergue de cette émission. C'est évident que, pareil, l'âge avançant, et je pense que j'irais même jusqu'aux auteurs de films. C'est-à-dire que, évidemment, quand on est critique, on parle de tout ce qui sort, mais dès l'instant qu'on veut faire des choses un peu plus importantes, il y a des cinématographies ou des auteurs qui nous tendent les bras.
Eh ben ce soir, on va voir qui tend les bras à Jean-Baptiste Torré, que actualité lyonnaise pour Philippe Rouillet.
Ben oui, parce que dès demain, je serai au Festival Lumière qui s'ouvre ce soir. Donc, c'est un prix, le prix qui est remis à Jeanne Fonda vendredi soir prochain. Mais toute la semaine va défiler tout ce qui fait le gratin du cinéma.
Le cinéma mondial, et du cinéma de
patrimoine. Marc Henri de Coin, pour lequel il y aura une grande rétrospective, est évidemment excusé. Mais Françoise Arnoux viendra. Et puis, on recevra Peter Bogdanovich. Voilà, qui va venir et qui parlera abondamment du livre de Jean-Baptiste. Moi d'ailleurs, fait avec Jean-Baptiste, ce livre d'entretien, publié chez Carlotta. Voilà, je recevrai Bogdanovitch au micro de Radio Lumière et ce sera évidemment l'occasion de parler de ça et des films qui ressortent en salle Saint-Jacques mercredi. Hein, on en parlera tout à l'heure dans l'émission.
Un film sublimissime. Un film extraordinaire.
Qu'on n'avait pas vu depuis sa sortie quasiment en France.
Et en ce qui nous concerne ce soir, Jean-Baptiste Thoré, donc le cinéma comme élégie, conversation avec Bogdanovitch, on va revenir sur ce livre d'entretien lui aussi, étourdissant, mais en attendant, celle que nous avons choisie, c'est Céline Duchesnay.
Bonsoir. Merci Céline. Merci pour ce choix, bonsoir.
Alors nous ouvrons notre encyclopédie et ce soir...
Eh bien mon choix justement de ce soir, c'est Anne-Margot Rammstein.
La tempête était passée et le soleil se levait. Aucune vague ne ridait plus la surface de l'eau. Le vent apaisé poussait lentement ma voile vers une île inattendue. Que faisait-elle ici ? Anna. Mes yeux allaient des cartes à l'île sans que je comprenne quelle erreur m'y avait menée. La coque du bateau se logea fermement dans le sable noir. Je quittai ma cabine, sautai hors du navire. Alors que je remontais la plage, j'aperçus une femme, à l'orée d'une dense forêt qui m'observait. Été. Je lui posai 1000 questions sur ce lieu. Elle répondait avec méthode. Diction monotone et lente, voix basse, timbre chaud, légère résonance. « Tu peux rester un peu sur l'île si tu le souhaites », proposa-t-elle. J'acquiesçais. « Je te présenterai ma jumelle ?» J'acquiesçais. « Tout le monde sur l'île a un jumeau. »
Et oui, tout le monde sur l'île du miroir a un jumeau en tout point identique à lui-même, un double qui ressent les mêmes sensations que lui, qu'elles soient voluptueuses ou douloureuses. Un double que l'on peut caresser, désirer, aimer, et sur lequel on peut tester ses envies et ses pulsions sexuelles les plus profondes et intimes. Le livre de la dessinatrice Anne-Margot Rammstein est une fable érotique construite sur un principe, celui de la symétrie. Les images se déploient sur chaque double page, chaque moitié étant le parfait reflet symétrique de l'autre, et les titres sont des mots palindromes, Ève, nom, elle, rêver, retâter, jusqu'à cette double page intitulée 00.00.
C'est presque une blague, quoi. C'est-à-dire que c'est un faux palindrome, il ne s'agit pas d'un mot cette fois-ci, mais donc d'un horaire. Bon, minuit étant, on connaît toute la charge symbolique qu'il y a autour de l'heure de minuit et des transformations que ça peut engendrer. Donc là, c'est le moment fatidique, en fait, pendant lequel le personnage principal découvre son double, Otto, il le découvre en fait suspendu dans une caverne, le cul au fer. Donc il est dans une île, suspendu avec des nœuds qui rappellent donc le bondage, dans une caverne qui est très explicite elle aussi, avec des formes qui sont relativement érotiques, qui sont... D'ailleurs, je trouve que les formes des cavernes sont naturellement très érotiques. Il n'y a pas eu beaucoup de choses à changer ou à inventer par rapport aux sources d'inspiration que j'avais glanées de ci, de là. C'était des cartes postales touristiques dont je m'étais inspirée.
Donc quelque chose qui dégouline quand même.
Oui, ça dégouline, ça pique, il y a des cavités, c'est tantôt concave, tantôt convexe, enfin, il y a des... c'est très organique, j'aime beaucoup cette image parce qu'on ne sait pas, en fait il y a rien n'indique que c'est moite mais tout est moite dedans, donc c'est ce qui me plaît pas mal en fait, comme je ne suis pas en général dans la description des matières, il n'y a pas de je n'indique en général pas tellement si les choses sont sèches, mouillées, humides ou pas, et là c'est on le sent quoi, il y a quelque chose d'effectivement beaucoup plus sensuel dans cette image que dans les autres. Et puis il y a la position de ce personnage en fait qui m'amusait beaucoup, enfin ça m'a vraiment plu de le dessiner comme ça. Il y a donc ce personnage d'Otto, les fesses offertes, qui invite donc à une rencontre qui n'est pas frontale du coup, comment on pourrait le dire, qui invite à une rencontre
anale.
Oui c'est ça, voilà, c'est une rencontre anale, ok.
Avec la pliure du livre qui passe exactement au niveau de l'anus du personnage.
Mm-hmm. Oui, la pliure du livre donc, vient fendre le personnage en deux. Donc là aussi, il y a ce jeu avec le livre qui s'ouvre et les deux pages qui s'écartent et qui correspondent donc à l'ouverture du corps aussi.
Otto ou l'île miroir est le titre de cet ouvrage au texte et dessin noir et blanc d'Anne-Margot Rammstein, un livre tout en hauteur et à la tranche pourpre et aux angles arrondis qui vous plongera dans les délices de l'amour symétrique. C'est sorti aux éditions 2024. Et pour plus d'infos sur le monde d'Anne-Margot Rammstein, rendez-vous sur son site www.anne-margot.com.
Merci Céline pour cette entrée. Donc Anne-Margot, joli prénom, Rammstein, c'est pas comme les Rammstein, le groupe allemand.
Pas tout à fait le même style.
De l'encyclopédie pratique des mots. Genre, réaction Jean-Baptiste
Moi j'aime beaucoup, et puis Céline me faisait remarquer que tout est dans la pliure, c'est un très très beau livre. Et puis j'aime beaucoup l'accompagnement musical qu'a choisi très pré ou post Tangerine Dream.
Laurent Paulrette, Tangerine Dream, d'ailleurs, on les trouve dans la collection Make My Day.
Oui, non, c'est pas du tout pour ça que je le disais.
Je rebondis.
Absolument, mais ça faisait penser un peu à ce type d'univers.
Et puis, on trouve évidemment, bien sûr, l'érotisme mauvais genre dans cette collection, donc Make My Day, fondée, animée par Jean-Baptiste Torré chez Studio Canal, notre invité et notre principal sujet de ce soir dans Mauvais Genre.
Et vous avez vu comment l'assassin a rangé cette gosse?
La formidable BO de Six Femmes pour l'Assassin, et d'ailleurs dans une version française, et je précise pour les auditeurs qu'il n'y a pas de version française sur le Blu-ray DVD d'ailleurs, je sais que 2-3 personnes m'ont fait la remarque, donc on y pensera sans doute les fois d'après. Pour moi c'était pas capital, mais je crois que pour certains en fait cinéphiles, ça l'est. Donc voilà.
Essaye de comprendre, Isabelle et Peggy habitaient avec toi, Isabelle a été tuée, et Peggy...
Vous vous droguiez aussi avec celle-là? C'est votre vie, c'est votre malheur. Il se lit clairement sur votre visage.
Les crimes sexuels les plus impitoyables.
Assassin! Espèce de salaud! Mais à vous donc, c'est toi l'assassin! Inspecteur, il faut l'examiner. C'est un impuissant.
Chalot!
C'est pour ça qu'il hait les femmes. Il les tuerait toutes parce qu'il n'est pas capable d'en avoir une seule!
Voilà, la bande-annonce française de Six Femmes pour l'Assassin de Mario Bava, des 5 films, donc, les premières rafales, la première déferlante de cette collection.
C'est 4 et 1, François.
Hein, 4 et 1, oui, pour l'instant, il y en a un qui n'est pas paru.
Dans une semaine.
Nous allons préciser tout cela en temps et heure, cher ami. Pas d'inquiétude. Alors, Jean-Baptiste, on va essayer un peu de raconter l'histoire de cette collection qui démarre, puisque, en définitive, depuis... Ça fait combien de temps que vous êtes immergé dans la vidéo? J'ai dit la vidéo, je dis pas le cinéma. Parce que je me souviens qu'une fois, dans les confidences, vous m'avez raconté que vous installiez les magnétoscopes chez vos voisins.
Ah oui,
il y a très longtemps.
Vous êtes sûr qu'il n'y a qu'une heure d'émission, François? En fait, moi j'appartiens à cette génération, mais comme Philippe qui a vu arriver le magnétoscope était quelque chose à l'époque dans les années 80 d'extrêmement cher. Donc on se rend pas compte aujourd'hui, un lecteur
de
DVD.
En 82, voilà. Mes parents m'ont dit pour ton bac, c'est le permis de conduire ou le magnétoscope.
Voilà,
c'est
et voir choisi
le magnétoscope.
Voir des films ou apprendre à conduire, et puis un jour les deux se rejoignent, prendre la route et prendre des films en même temps. Mais dans les années 80, le magnétoscope était effectivement quelque chose de très très cher. Les cassettes vidéo coûtaient très très cher. Et donc, c'était l'époque évidemment des vidéoclubs naissants. Les cassettes vidéo pouvaient coûter jusqu'à 4 ou 500 francs à l'époque, 1000 francs même. Et donc, on était des grands praticiens déjà du système D. Hein. On apprenait à faire des copies dans les vidéoclubs, à enlever les bandes originales et à remettre des copies à l'intérieur. On a fait des choses absolument incroyables. Et moi, je sais que pour un peu arriver à aujourd'hui, sinon, vous voyez bien, là on est en 83, j'espère. Si, sinon on arrivera en 2000 d'ici 40 minutes. Non, mais moi, c'est pour ça que j'ai toujours considéré, par rapport au débat qu'on a aujourd'hui sur la question de la, disons, de la fébrilité des salles de cinéma ou de l'expérience du spectateur de cinéma aujourd'hui, on se dit il y a une génération qui arrive pour laquelle finalement la salle de cinéma n'est plus le temple ou l'église que ça a été pour nous. Mais à titre strictement personnel, la salle de cinéma a toujours été pour moi un lieu extrêmement important, mais j'ai toujours préféré voir des films qu'aller au cinéma en réalité. C'est-à-dire que je préfère voir 4-5 films en vidéo chez moi dans des conditions évidemment correctes, hein, là n'est pas la question, plutôt que d'attendre 3-4 ans de voir ce film-là éventuellement dans une salle. Je suis prêt à aller le revoir, mais pour moi, il n'y a pas du tout de délit, si vous voulez, de vision, de visionnage. Hein, je n'aime pas du tout cette façon de dire tu n'as pas vu le film en salle, donc tu ne l'as pas vu. Pas du tout. Il y a pour plein de raisons en France, qu'on habite en province, dans certains endroits, on n'a pas la chance, contrairement aux Parisiens, d'avoir une offre si importante qui fait qu'on peut toujours choisir entre chez soi ou la salle. Moi, je sais que dans les années 80, j'ai aussi appris ça avec la cinéphilie. C'est en très grande partie construite à partir de la vidéo. J'ai autant de souvenirs de cinéphiles de vidéo que de souvenirs de cinéma. Donc, pour moi, l'un n'est pas. Il n'y aurait pas les aristocrates du cinéma d'un côté et les prolétaires de l'autre. D'abord, le cinéma est un art populaire où les deux se mélangent. Et je dis toujours aux cinéphiles que je peux rencontrer ou à des élèves que j'ai pu avoir ou même à mes enfants, enfin peu importe, cette idée que le plus important c'est de voir des films. C'est mieux si on peut les voir en salle, effectivement, mais le plus important c'est de voir des films, et donc faut pas se sentir coupable parce qu'on va voir un film en vidéo chez soi, sur un très grand écran d'ordinateur, sur un écran placement ou une petite télévision. Moi, il y a des films que j'ai découverts en noir et blanc à l'époque sur des télévisions 4 tiers, Death Wish de Michael Winner, que je vois un jour diffusé dans les dossiers de l'écran avec un petit carré blanc. Je vois le film en noir et blanc, parce qu'à l'époque chez moi il y avait une télé en noir et blanc, en noir et blanc avec un petit carré blanc, et ça reste un souvenir de cinéma inoubliable, même si je le reverrai plus tard dans une version correcte et en couleur. Donc il ne faut pas du tout... La cinéphilie, elle est beaucoup plus contrebandière que ça. Hein, il n'y a pas forcément des lieux d'académie, d'institutions. C'est aussi les 400 coups de Truffaut. Hein. Le plus important, c'est de voir des films. Peu importe comment on les voit, quand on les voit, sur quel support on les voit, le plus important, c'est ça.
En même temps, je suis 100% d'accord, parce que de toute façon, moi j'étais en province dans mon adolescence, et c'était la télévision avant même l'arrivée de la vidéo, puisque je suis un peu plus âgé, il n'y avait pas encore de magnétoscope. C'était à l'époque, les chaînes de télévision passaient à 20h30 des vrais films de cinéma, hein, pas tout simplement fait, ouais. C'était très intéressant, donc toute une partie est venue là, parfois en français, hein, et je pense que This Wish était aussi en français au dossier de l'écran, et dans des versions coupées même, mais voilà, c'était ça, mais ça n'empêche pas que, voilà, il y a la salle. Et moi, je suis amoureux d'aller au cinéma. C'est-à-dire que je vois énormément de films, évidemment, en vidéo, sur un très belle installation à la maison de home cinéma. Mais le cinéma, il y a un parfum et il y a un mystère quand la lumière s'éteint dans le cinéma, dont je suis très amoureux. Et mais effectivement, oui, voir des films tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit. Mais aller au cinéma donne un cachet un peu particulier. Et ce que vous disiez, Jean-Baptiste, tout à l'heure, ça m'empêche pas d'aller le voir après, pas attendre 4 ans d'aller le voir en salle. Mais oui, parce que les films qu'on a profondément aimés comme ça sur un écran plus petit, on a très envie de les voir sur grand écran et de les partager, parce que l'expérience de cinéma, c'est aussi le partage, quoi. Beaucoup plus que chez soi, même si on peut voir avec des gens de la famille, des amis. Au cinéma, on voit aussi avec des inconnus. Et découvrir des films, avoir des émotions avec des inconnus, c'est aussi très, très beau.
Alors, cette collection Make My Day, j'ai dit Make My Way, j'ai pensé au trajet et au parcours de chacun.
Ça sera la saison 2, ça, François. Très bonne idée. Donc, la version Mike Brandt de cette collection Mauvais Gens.
Donc, vous avez, donc, elle paraît chez Studio Canal. Après, vous avez vu je ne sais combien de milliers de DVD de VHS dans votre vie. J'imagine que chaque jour.
Comme nous tous autour de cette table.
Chaque jour apportait sa.
Bah, c'est une nourriture spirituelle quotidienne.
Donc il y a une sorte véritablement d'analyse, d'observation, de réflexion sur ce qu'est l'objet DVD puis l'objet Blu-ray, c'est-à-dire évidemment qu'est-ce qu'on monte, la copie, le sous-titrage, et puis la question du bonus qui est une question centrale, parce que par rapport à la VHS qui n'apportait rien d'autre, le DVD, on le sait, apporte de riches commentaires et puis des suppléments and so and so. Donc ça, vous avez l'expérience que l'on sait en matière de vidéo et de DVD, et comment s'est passé donc le démarrage avec Studio Canal. Ils sont venus vous voir, ça bien évidemment. Mais est-ce que vous avez hésité? Est-ce que déjà vous aviez une idée d'une collection depuis longtemps? Comment les choses sont-elles embrayées?
Alors, Oui, ils sont venus me voir avec cette idée, tout simplement, qu'ils ont un catalogue et il faut évidemment du temps et même une sorte de puissance de frappe. Un catalogue qui était largement inexploité et ça se comprend très très bien quand on a 12, 15 ou 18 000 titres. C'est extrêmement compliqué de pouvoir tous les exploiter correctement. Donc ils m'ont demandé tout simplement de jeter un coup d'œil et ça s'est fait au fil des mois. Est-ce qu'il y a éventuellement des films à sortir de ce catalogue-là? Réponse oui de ma part. J'établis une première liste et puis petit à petit, on pourrait presque dire que la liste se personnalise, c'est-à-dire que ce sont mes goûts qui parlent à ce moment-là.
Alors justement, la question est la suivante. Quand ils sont venus vous voir, ils vous connaissaient comme cinéphile, comme historien du cinéma, comme personnage public tenant depuis des années un discours important sur le cinéma. Est-ce que eux vous donnaient carte blanche ou est-ce qu'ils avaient une idée déjà de ce qu'ils voulaient dans cette collection?
Non, pas, je pense qu'ils n'avaient pas d'idée. La carte blanche, c'était une évidence à la fois, je pense, de leur côté et du mien. C'est-à-dire que je n'aurais évidemment jamais fait une collection, je n'avais pas carte blanche. Ce qui m'intéressait dans cette aventure-là, c'est de pouvoir contrôler, on pourrait dire, la collection du début à la fin. Et le début, c'est le choix des titres, et la fin, c'est le packaging, avec au milieu le choix des copies, qu'est-ce qu'on met dedans, quel type de bonus on va faire, etc., etc., etc. Et là, j'ai travaillé notamment avec deux personnes à Studio Canal qui s'appellent Olivier Valton et Julien Métral, qui m'ont beaucoup aidé, parce qu'il faut rendre possible ça. Hein, c'est quand même une grosse machine, c'est pas un petit éditeur dans sa cave. Hein, donc entre les désirs de la Mitoret et puis le fait de faire derrière un DVD Blu-ray, ça demande du travail, il faut une équipe derrière. Donc moi, je ne pouvais le faire qu'à condition que j'ai carte blanche, pour une raison évidente, c'est que j'avais envie de pouvoir assumer et de pouvoir faire un travail qui peut avoir ses défauts, mais en tout cas qui correspondait à ce que j'avais envie de faire. Donc après, je suis comme n'importe quel consommateur, spectateur de DVD, j'en vois comme vous, Philippe ou François, depuis maintenant des années, et j'ai mon petit point de vue dessus, qu'il y a des éditions que je préfère, d'autres un petit peu moins, et donc l'expertise, elle est presque naturelle. Moi, la question des bonus, pour moi, était une vraie question. C'est-à-dire que comment est-ce qu'aujourd'hui on fait des bonus? Par exemple, je n'aime pas du tout les éditions de DVD ou Blu-ray qui multiplient presque à nauseam des bonus, des fragments de bonus, une forme d'obésité en fait des bonus qui pour moi est le signe d'un travail éditorial qui n'est pas fait, c'est-à-dire qu'à moins de tomber sur une micro-niche de 50 personnes, personne ne regarde 25 bonus de 4 minutes qui pour la plupart sont redondants. Donc moi j'avais envie presque par respect pour celui qui va acheter le DVD ou le Blu-ray de faire ce travail-là. Voilà, j'ai 4-5 entretiens, j'ai des archives, etc. Qu'est-ce que je peux raconter comme récit à partir de ça pour faire un bonus de 40-45 minutes? Là, la durée ne me fait pas peur du tout, mais au bout de cette petite heure de bonus, on aura appris l'essentiel, ce qui n'empêche pas d'en avoir 2-3 par ailleurs. Mais l'obésité des bonus me gêne, un, pour cette raison-là, parce que c'est signe d'un travail éditorial qui n'est pas fait. Mmh. Et donc, on décourage un nombre de spectateurs incalculable au moment de la vision du film. Deux, c'est par moment une sorte de prise d'otage, je trouve, de l'acheteur. Sous prétexte, il y a beaucoup de bonus, on monte le prix. Hein, mais à ce moment-là, il faut le justifier. Hein, c'est quelque chose qui se développe un peu par moment. Donc, moi, j'étais très vigilant là-dessus. Avoir 3-4 bonus, mais. Et puis, aussi avoir des bonus qui n'étaient pas forcément des bonus, alors redondants surtout pas, mais totalement clos sur le film. Moi, le cinéma, c'est quelque chose, enfin, c'est comme vous tous ici, c'est quelque chose qui circule. Un film donne envie d'aller voir un autre, donne envie de s'intéresser au genre, à la cinématographie, etc. Donc, j'avais plutôt envie que les bonus soient sous la forme d'un entonnoir inversé. C'est-à-dire que le film, et c'est la base, et puis plus on progresse dans les bonus, plus ça communique avec l'histoire du cinéma. Quand Philippe Labro, je vais le voir pour faire un entretien de carrière avec lui à propos de 100 mobiles apparents, je lui dis dès le début, vous savez, on ne parlera pas que de 100 mobiles apparents. C'est un moment, c'est une étape de votre carrière. On va faire un entretien de carrière des débuts de vos études aux États-Unis jusqu'à Rive droite, Rive gauche. Et c'est ce mouvement-là qui m'intéressait. Et je trouve qu'il arrive souvent que les bonus soient un tout petit peu autistes. Et dernière chose, la question de l'analyse. En tout cas, cette idée qu'on fait le pari que le spectateur n'est pas complètement imbécile et que s'il a acheté un DVD ou un film un peu exigeant ou un peu rare, il est prêt à avoir des outils d'analyse, de critique, de réflexion, des angles, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, en tant que praticien et en tant qu'intervenant dans des bonus, c'est par moments un petit bémol que je pouvais émettre, en même temps j'avais le sentiment que on développe des éditions de plus en plus, on pourrait dire exigeantes, cinéphiles, on sort des films Z, bis, de derrière les fagots, qui peuvent être formidables évidemment, mais je trouve que disons que l'appareil critique autour n'est pas toujours à la hauteur de cette exigence-là. Donc je me dis, au contraire, là on va y aller, on va faire de l'analyse, de la critique par moment. C'est le cas, par exemple, dans Max Mon Amour, d'un bonus s'appelle Par Petit Trou de la Serrure. Voilà, c'est une analyse de 20 minutes. Je préparais pour un numéro de décembre aussi, etc. Donc, Et souvent, on a le sentiment qu'on sort un film qui est très exigeant, et comme si on avait peur d'un seul coup de l'exigence du film, on faisait machine arrière sur les bonus, et là, on avait des trucs de making-of, des discours pas forcément très intéressants. Non, non, non. Je pense qu'on peut avoir le discours le plus intelligent, et sans être un télo, je précise, et pop en même temps. Donc, voilà, l'idée, c'était de remettre en route la question de la critique aussi de bonus dans les Blu-ray DVD.
On va en parler, mais là, on a des bonus extrêmement conséquents.
Dans cette perspective-là, il y a un bonus qui est commun à tous les films de la collection, c'est votre préface. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une vraie préface. C'est-à-dire que la préface dans un livre se lit avant le livre. Et ben là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans beaucoup de collections, ce qu'on appelle présentation, préface, etc., est bourré de spoils. Et c'est souvent quelque chose qu'il vaut mieux regarder après avoir vu le film, parce que c'est parfois très très intéressant, mais ça en dit beaucoup trop. Alors que là, c'est vraiment une contextualisation. Et puis... quand même faire saillir des éléments d'analyse, parce que très souvent, vous n'apparaissez pas dans les autres bonus. Vous avez, j'allais dire, la générosité de confier à d'autres. Et donc, il y a quand même votre avis qui est là pour conduire la vision du film par le spectateur. Et je trouve ça hyper précieux et très intéressant. Et là, c'est évidemment le fruit aussi d'avoir vu énormément de bonus, parfois avoir été déçu, mais aussi des présentations en salle. Et j'ajoute que cette présentation se fait de manière très naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prompteur, le texte n'est pas appris. Et si vous butez sur un mot, alors que ce serait très facile de le gommer au montage, vous choisissez de ne pas le faire. Et je trouve ça très bien, parce qu'il y a un côté très naturel. S'il y a Jean-Baptiste Auré dans votre salon, qui vient vous accompagner.
Alors ça, je ne sais pas si c'est un cadeau.
Qui vient vous présenter, non, mais... qui vient vous présenter chez vous le film que vous avez acheté.
Jean-Baptiste. Alors, merci Philippe, mais c'est vrai. Alors les préfaces, les prompteurs, non, mais je ne saurais pas faire ça. Quand bien même je voudrais me mettre au prompteur pour faire plus sérieux, plus animateur BFM, je n'y arriverais pas. En plus, je trouve ça ridicule. Non, c'est un peu comme si je faisais une intervention chez vous, à mauvais genre. T'as qu'on me dit, voilà, Jean-Baptiste, allez-y sur sans mobile apparent. Et ben voilà, on fait une préface ou, de façon plus péjorative, un micro-tunnel de 7-8 minutes. Et moi, j'aime cette idée de l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préface parfaite. On n'y arrivera jamais. Et la perfection, en fait, manque d'humanité, je trouve. C'est-à-dire que, or, buter sur un mot, c'est pas un problème. Vous savez, moi, je me souviens des préfaces que faisait Jean-Pierre Dionnet pour Cinéma de Quartier, qui a été un des premiers à systématiser ça dans l'univers du DVD. Et je trouve aussi que c'est une forme de politesse à l'égard des gens qui vont acheter votre DVD. Tout simplement, c'est aussi une façon de les accueillir. Après, vous dites que je n'interviens pas, c'est aussi ça qui m'intéressait. Alors parfois je peux faire des bonus que je prends en charge d'analyse ou autre. Par contre, disons que j'interviens en sous-main sur la question à la fois évidemment de la réalisation du montage et même des entretiens eux-mêmes. C'est-à-dire que ça m'intéresse beaucoup. Si je ne m'occupe pas des bonus, si je ne suis pas dans les bonus, ça m'intéresse beaucoup de les faire malgré tout. Donc quand je vais voir Jean-Claude Carrière, Michel Portal, Philippe Labro, Charles Tesson, les réponses dépendent aussi du type de questions que vous pouvez poser. Et moi c'est ça qui m'intéressait, c'est que d'avoir un certain type de conversation avec les gens que je vais aller voir. En se disant toujours qu'il n'y a pas de limite, à la critique ou à la profondeur d'analyse. Il y en a pas fondamentalement. Je pense que n'importe quel spectateur on peut l'emmener extrêmement loin si on prend le temps et si on y met les formes. Donc la question de la pensée ou de l'intelligence des intervenants ou de ce qui peut être raconté ne me fait pas peur. Alors, on est parti sur sans mobile apparent. Qu'est-ce que je peux vous dire sans mobile apparent? C'est que.
Sur la musique, essentiellement. Commençons par la musique.
J'ai beaucoup de respect pour vous. Donc, je vais dire pour les auditeurs égarés qui auraient été sur Mars depuis 15 ans, donc la musique des New Morricone, évidemment. Et sans mobile apparent, c'est intéressant parce que moi, j'avais envie que cette collection. Vous l'avez pas dit, François, mais il faut être honnête par rapport à l'auditeur. Et il n'y a aucune ligne éditoriale dans cette collection, si ce n'est que j'aime les films.
Oui, parce que quand même la ligne la plus ferme, plus cohérente et la plus durable.
Il faut pas que j'invente rétrospectivement une espèce d'idée, un plan de publication. C'est pas le cas du tout. Et sans mobile apparent, c'était tout simplement l'idée de la collection étant que l'essentiel des films sont des films qui sont jamais sortis en DVD ou en Blu-ray en France. Certains sont sortis il y a très longtemps, ont été épuisés. Là, on les sort dans des versions restaurées en Blu-ray avec des bonus. Et sans mobile apparent était le seul film de Philippe Labro qui n'était jamais sorti en DVD Blu-ray.
Make My Day, la collection de Jean-Baptiste Torré chez Studio Canal, avec sous l'invocation de Clint Eastwood et l'inspecteur Harry, avec comme seule cohérence éditoriale, eh bien, la cinéphilie.
Ça met en confiance immédiatement.
Voilà, profonde de Jean-Baptiste Torré. C'est déjà effectivement une belle cohérence. Alors, on commence avec ce titre. Alors, il y a des titres franco-japonais, américains, italiens, deux titres italiens, et puis un titre français, donc qui est Sans mobile apparent, jamais sorti. Et qu'effectivement, alors on parlait des souvenirs, j'ai souvenir, moi, il y a un demi-siècle, à la télévision française, de 100 mobiles apparents à dimanche après-midi. Le souvenir que j'en avais, et effectivement la scène la plus spectaculaire du film, c'est Trintignant dans le port de Nice, tirant au pistolet de l'autre côté du port, dans la fenêtre d'une petite chambre de bonne où se tient le tueur qui vient de tuer son ancienne maîtresse, et amorçant une sorte de cavalcade essoufflante et époustouflante pour aller le retrouver. Je m'en souvenais, mais alors quasiment le plan très détaillé, je l'avais vu en noir et blanc, donc merci de nous avoir offert la couleur.
Bah oui, non, mais sans mobile apparent, moi ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que en fait on en revient pas toujours mais quand même assez souvent à cette question des années 70, c'est-à-dire que Labro
film de 71.
Voilà, 71, son premier film de Labro c'est 69, il terminera en gros dans les années 80, il arrêtera de faire il le dit d'ailleurs dans l'entretien, il arrêtera de faire des films.
Et les années 90.
Voilà, les années 90. Et c'est intéressant avec Labro parce que il dans l'entretien en fait on comprend à mots couverts que c'est quelqu'un, un réalisateur, un artisan, un cinéaste qui n'a existé que parce qu'une période, les années 70. Autrement dit, Philippe Labro, moi ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'évidemment il n'a pas le niveau de Melville, son mentor, il n'a pas le niveau d'Alain Corneau, même pas de José Giovanni, je pense lui-même n'avait pas la prétention d'avoir ce niveau-là. Mais les années 70, ce cinéma populaire français-là, on pourrait dire du milieu, on dirait aujourd'hui, était tellement fort qu'un type comme Labro a réussi à faire des films intéressants, et je pense qu'en mobile apparent est un des films les plus intéressants de ce point de vue-là. Il faut juste rappeler qu'à l'époque, c'est Jacques-Éric Strauss, producteur du Clan des Siciliens, tourné en 69, qui sort d'ailleurs, il le dit dans l'entretien Labro, au même moment que son film Tout peut arriver, donc il plombe littéralement son film à lui, et ce producteur du Clan des Siciliens a le sentiment que Labro, plutôt que de se regarder le nombril façon post-Nouvelle Vague, serait peut-être plus inspiré d'aller adapter éventuellement des romans noirs. Il adore l'Amérique, il pense qu'il a quelque chose à faire avec ça. Et c'est comme ça que Labro va trouver un roman noir, Ten Plus One, et va l'adapter et transposer l'action, en gros, de la Californie à la côte niçoise. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on voit, ça raconte toute une histoire de cinéma français de cette période-là, à laquelle moi je suis extrêmement attaché, qui fait que même des artisans ont fait des films absolument passionnants, parce que le contexte autour est incroyable, à la fois la côte niçoise à l'époque, les voitures, les vêtements, un producteur comme Jacques-Éric Strauss qui est capable de vous dire...
L'affairisme.
Ce producteur qui va chercher Labro, qui lui donne carte blanche, qui lui dit bah moi je vous ramène Trintignant, je vous ramène Ennio Morricone, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc le jeune Philippe Labro se retrouve avec Melville comme mentor,
oui, Trintignant comme acteur. Dans le bonus, oui. Il raconte que le mentor peut être un peu encombrant.
Oui, mais enfin en même temps c'était une relation entre les deux qui était
très émouvante,
qui est très émouvante. Et d'ailleurs il le raconte tous les soirs, il appelait Melville tout simplement de sa petite chambre d'hôtel à Nice, Melville qui était à Paris rue Génère ici. Et pour lui demander ce qu'il pensait de la façon dont il avait tourné, comment aménager son plan de travail pour le lendemain, etc. Et même un jour, Melville lui dit, si vous voulez, je descends à Nice.
Oui, il y a beaucoup de lucidité de Labro. Surtout pas, parce qu'alors là, et c'est très juste.
Non,
là,
c'est Jean-Pierre,
c'est fini. Si le maître est là, je paraîtrais vraiment un baltringue. Et ça, c'est une grande lucidité.
Et puis, il y a une autre chose, moi, à laquelle je suis extrêmement sensible. C'est-à-dire que là, on voit vraiment, ce que je trouve intéressant avec son mobile apparent, c'est qu'on comprend comment quelqu'un qui va faire des films et qui n'en fera plus à un moment. Après, d'un scénario qui est un scénario, une formule de genre assez classique.
Rappelons rapidement pour nos auditeurs.
Des assassinats ont lieu à Nice de personnalités dont on n'arrive pas à avoir le lien entre elles, sans mobile apparent, et un inspecteur Carella joué par Trintignant, une espèce de type entre Eastwood, mutique, un peu limite névrotique, va mener cette enquête-là. Mais ce que je trouve très beau, c'est que pour moi, on a le sentiment d'avoir l'écume des années 70. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le prétexte d'un grand cinéaste qui est Philippe Labro. Il n'y a pas tous ces prétextes-là, mais la période est tellement incroyable, parce que le cinéma français de l'époque, le cinéma italien de l'époque, le cinéma américain de l'époque est tellement vivant que le film devient aussi une forme, pour moi, presque de documentaire de cette période-là. C'est qu'il y a à la fois des influences italiennes, évidemment, il y a des influences américaines, il y a des influences françaises. Stéphane Audran est là, on a un moment chabrolien dans le film absolument incroyable. Quand on voit son mobile apparent, si on le déplie, on a le sentiment d'avoir presque une sorte de photographie des grands cours courant du cinéma populaire des années 70.
Oui, parce que c'est presque un giallo à la française. Oui, il y a un côté qui est ce tueur, qui est forcément parmi les gens qu'on croise dans le film, dans les seconds rôles. On va chercher, comme dans le giallo, on va chercher des gens un peu improbables. Je pense à Marielle, qui était chez Argento. Et à Marielle, on lui fait un rôle d'anglais. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on ose tout. Encore quand c'est un étranger qui... Mais là, un Français comme Labro qui a l'idée de donner un rôle d'anglais à Marielle, c'est absolument génial. Et puis il y a tout un cast italien, Carla Gravina, il y a Laurent Antonelli, donc là encore, ça infuse le giallo. C'est un moment du cinéma français où les jeunes auteurs, on leur dit, prends des polars. Et c'est passionnant parce que lui, il prend un polar américain, il explique bien dans le bonus. Je vois bien comment faire de cette Amérique-là Nice. Je vois bien la Côte d'Azur. Et à partir de là, ça donne un côté forcément très libre dans l'adaptation. Et ben, c'est au moment où Tavernier fait avec l'horloger de Saint-Paul. C'est Claude Miller qui fait « Dites-lui que je l'aime ». À chaque fois, on prend des romans souvent américains. Enfin, bon, Tavernier, c'était Simenon. Et on infuse autre chose dedans.
Sans mobile apparence, c'est en 1971, mais trois ans avant, encore lui, Jean-Louis Trintignant tournait dans un chef-d'œuvre du cinéma italien, La mort à Pont-du-Hain-Neuf. Voilà, les auditeurs de Mauvais Genre se souviennent, c'était en 2010 ou 2011, d'une soirée épique au Théâtre de l'Odéon. Nous recevions à Mauvais Genre Jean-Louis Trintignant après un récital de poésie où il était question que de poésie. Robert Desnos, Boris Vian, Jacques Prévert.
Et soudain,
Jean-Baptiste Torré dit à Jean-Louis Trintignant « La poésie, c'est très bien, mais passons aux choses sérieuses. » En 1968, vous tourniez un film qui s'appelait « La mort à Pont-du-Hain-Neuf ». Et là, brusquement, on a eu le sentiment que Jean-Louis Trintignant subissait une petite décharge électrique et ça a été parti pendant une heure, même plus une heure au lieu de 20 minutes.
C'était le shot d'adrénaline.
Oui, voilà, je me souviens très bien que tous les trois à cette époque-là, on était un peu craintifs, on avait peur. Parce qu'on avait quand même Trintignant en direct pendant deux heures.
Sur service de presse, vous avez dit, vous ne l'aurez que 10 minutes pour parler de la poésie.
Voilà, exactement. Donc on se disait, voilà, si la première marche est ratée, c'est la catastrophe. Et l'état d'un petit peu de sidération dont vous parliez, François, de Jean-Louis Trintignant, c'était un réveil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que il y a beaucoup de d'acteurs ont tendance à réécrire un peu leur légende, leur filmographie, en faisant mine d'oublier qu'ils ont tourné certains films. Trintignant, pas du tout. Puis Trintignant, la carrière italienne de Trintignant est très importante. La mort à Pont-du-Hain-Neuf, évidemment, la mort, c'est la traduction littérale du titre italien de Giulio Costi, La morte à Fatou
Rovo. Pour une fois.
Et je trouve ça c'est intéressant parce qu'on voit bien combien Trintignant, ce qui explique aussi, avant de parler de La mort à Pont-du-Hain-Neuf un peu plus précisément, c'est qu'il a évidemment à cette époque-là une carrière en Italie. Évidemment, Le Grand Silence, La mort à Pont-du-Hain-Neuf.
Le conformiste.
Le conformiste de Bertolucci. D'ailleurs, le couple Dominique Sanda et Bertrand Trintignant est reformé dans le Sans mobile apparent, Dominique Sanda et Trintignant. Mais c'est aussi Si douce, si perverse, d'Umberto Lenzi, qui est un des modèles secrets
de La mort à Pont-du-Hain-Neuf.
Alors, ça arrivera peut-être un jour. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte que Trintignant, il l'explique très très bien, en fait, n'était pas courtisé par les cinéastes de la Nouvelle Vague. Il s'est retrouvé à partir en Italie, en grande partie parce qu'en fait, tous les cinéastes de la Nouvelle Vague qui tournaient à ce moment-là ne s'adressaient pas vraiment à lui. Donc, moi, j'aurais du boulot en Italie. Et c'est là qu'il va croiser cette grande aventure du cinéma de genre italien.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
François Angelier qui est heureux de recevoir ce soir Jean-Baptiste Torré pour Make My Day, la collection qu'il lance de Blu-ray et DVD cinéphilique chez Studio Canal. La musique qu'on entend, c'est celle de La mort à Pont-du-Hain-Neuf. Elle est signée Bruno Maderna. Alors, c'est extraordinaire, c'est que Bruno Maderna est l'équivalent pour l'Italie des années 50, 60, 70 de Pierre Boulez pour la France. Et il fait de la musique d'un film qui est quand même a priori pas véritablement ce, j'imagine pas Boulez faisant la musique d'un Mocky.
Oui, alors en même temps, il y a deux façons de prendre le problème.
Quoique. Soit... n'est pas Mocky.
Voilà. Quoique. Alors, il y a deux façons de prendre le problème. Soit on le prend comme vous venez de le poser, François, à savoir que fait Maderna chez Giulio Questi. Ou alors, peut-être que Maderna est justement chez Questi parce qu'il a vu chez Questi quelque chose qui est différent de, du cinéma de genre classique. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que je pense que Maderna est sans doute au cinéma de genre, ce Questi est lui-même au cinéma de genre. Parce que La mort a pondu un œuf, il faut prévenir les auditeurs pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est que c'est un film qui est très à part, de la même façon que Tire encore si tu peux, premier film de Questi tourné deux ans auparavant, était un western très particulier avec Thomas Willian, un des meilleurs, à mon avis, du western italien de cette période-là, et puis il fera une trilogie, il a tourné très peu de films, Giulio Questi, Arcana en 72, qu'il faudra aussi veiller à éditer un de ses jours, film absolument incroyable, La mort a pondu un œuf occupe la place du milieu, mais c'est un peu comme si, si vous voulez, c'est comme si le Godard de, d'une femme mariée et de Weekend avait réalisé un film d'Umberto Lenzi. Voilà, vous pensez à cette espèce d'alliage un peu étrange et vous avez La mort a pondu un œuf. Ce qui fait qu'on a à l'origine, Questi le dit, un désir de prendre une structure, on pourrait dire dramatique, dramaturgique assez forte, un giallo, très bien, et à partir de là, on est dans la déconstruction, au même titre que Maderna le fait avec la musique. Absolument. Et le bruitisme, etc. La déconstruction totale, et le rapport à Godard est intéressant parce que Questi a été un des cinéastes italiens à la fois très politisé, membre de la résistance italienne, membre du parti communiste italien, il fait partie de toute cette génération qui est allée faire des giallo et des westerns pour agitant, pour le chiffon du genre pour faire des films beaucoup plus profonds et beaucoup plus politisés que ça, et c'est le cas de La mort de Rapondu à Neuf. Autant dans Weekend, Godard s'attaquait à la situation du loisir, on se souvient de ça, un film absolument remarquable, autant Questi dans La mort Rapondu à Neuf s'attaque à la situation de l'industrialisation, du capitalisme si on veut. Il y a même des situations extrêmement directes de Weekend et d'une femme mariée dans le film, hein, puisque le corps de Gérald Brigida est par moments filmé comme dans le film de Godard, et même une séquence de Weekend est quasiment reprise. Donc c'est un film totalement inattendu et qui violente. Moi, c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'à aucun moment le film nous laisse rentrer dans cette espèce de confort un peu rassurant, presque l'assoupissement, hein, de devant une espèce de fiction avec un peu, il y a tous les éléments du genre, hein, l'érotisme, le couteau, le meurtre, des femmes un petit peu dénudées,
les gants noirs,
des intérieurs ultra kitsch, etc. Et peu à peu, on voit, et le film est caviardé à la fois par une mise en scène qui en permanence vous dit mais réveillez-vous, est-ce que vous êtes vraiment en train de voir uniquement un giallo? Réponse non, évidemment. Et caviardé par des idées de plus en plus baroques et incroyables. Je pense à ces poulets qui sont, par exemple, on est le personnage principal qui tient donc cette espèce de poulailler industrialisé qui a appris à se passer des ouvriers. Il y a un film cousin.
Tout est là-dessus.
Il y a un film très cousin de La mort à pondu à neuf, c'est La classe ouvrière va au paradis d'Elio Petri. C'est très intéressant de voir que le film vient 2-3 ans après. Il appartient à cette même catégorie-là. Il rentre dans le bureau de cette entreprise qui a fait du poulet. Il faut écouter les dialogues sur la question du poulet. C'est absolument génial.
C'est totalement
génial.
Visionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les débats qu'on a à l'Assemblée sur les cages et sur ce qu'on peut faire aux animaux, c'est là, puisque on vire les ouvriers pour engager un ouvrier chimiste dans ce poulailler. Qu'est-ce qu'un chimiste peut bien avoir à faire pour élever des volailles? Eh bien, faire un prototype de volaille qui aurait encore plus de viande et encore moins d'os. Ouais.
Sans ailes et sans tête.
Donc voilà, on a des poulets sans ailes et on les voit. C'est-à-dire que là, le film devient carrément fantastique. Il y a cette vision très angoissante et qui angoisse énormément le personnage de Trintignant. Donc on se retrouve avec ce film qui est visionnaire sur notre consommation. La question du giallo est réglée avec des meurtres qui sont des faux meurtres. C'est-à-dire qu'il y a un fétichisme du meurtre par les personnages, on raconte pas, mais à côté de ça, il y a des vrais meurtres. Il y a les faux meurtres et les vrais meurtres. Je veux dire, c'est presque une mise en abyme.
Les vrais
du
meurtres,
genre,
c'est ceux des poules.
Dans un style godardien.
Mais c'est tout Jean-Baptiste. À fait vrai. Mais c'est intéressant parce que si on compare sur cette question du monde ouvrier, la façon dont la mécanisation va mettre des gens au chômage, enfin cette grande critique sociale de gauche, on pourrait dire du cinéma italien des années 60-70, quand on compare ce film La classe ouvrière va au paradis, qui est un film qui est aussi un film plutôt désagréable, qui provoque, qui martèle l'esprit du spectateur, si on se souvient de ça, c'est du jeu de Jam à volonté à cette musique un peu mécaniste insupportable. Je pense que Questi va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, il fait ce même constat, mais il va presque du côté, comme le dit Philippe, du côté de l'anticipation et la création des monstres qui sont une métaphore de le capitalisme produit de la monstruosité, et quelque chose que je trouve presque plus original et qui a mieux vieilli que les films, on pourrait dire, plus sociaux, hein, plus critiques, politiques de l'époque, parce que il y a une rêverie, il y a un, il y a, y a, y a
Il y a
c'est du cinéma.
Oui, et puis
Questi, c'est pas un film à message.
Bien sûr. Non, puis Questi a une espèce de une vraie inventivité. Il y a un des personnages qui parle à un moment donné. Il y a un côté Jodorowsky chez lui, c'est-à-dire qu'il se laisse toutes les libertés. Ces poulets qui sont enfermés dans des classeurs parce qu'il faut classifier les poulets. Ça, sont vraiment des images totalement surréalistes, incroyables. Et il y a une inventivité formelle que je trouve absolument incroyable et qu'on retrouvera dans Arcana 4 ans plus tard du même Giulio Questi.
Giulio Petri d'ailleurs qui lui est en DVD, la clause ouverte va au paradis, oui, si on veut faire le parallèle.
Oui, mais il y a quelques Petri qu'on attend.
Oui. Et vous faites bien les attendre, Philippe.
...1987, Near Dark, Catherine Bigelow, donc ça c'est le tome 2 de la collection, puisque tout dans Make My Way, mais tout est numéroté.
Make My Day.
Non, mais je ne vais pas y arriver, c'est effrayant.
Exceptionnellement aujourd'hui, François, vous pouvez dire que Make
tolérance.
My Way. Non, mais Near Dark, voilà, Near Dark, aux frontières de l'aube en français. Alors je laisse la parole à Philippe, parce que c'est un film qui lui tient à cœur.
Oui, c'est un film que j'ai découvert à l'époque au Grand Rex, où il avait reçu, il a été primé. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est un film, à l'origine, elle voulait faire un western, Catherine Bigelow, un western, j'allais dire, post-Peckinpah, hein, et finalement, elle fait aussi un film fantastique. Et le film est ce mélange des deux, et quand on regarde le film, on a ça. C'est-à-dire que ce sont des vampires, c'est une histoire d'amour de Roméo et Juliette, en quelque sorte, chez les vampires, donc ça pourrait annoncer Twilight, hein, si vous voulez, mais en version vraiment cinéma, vraiment auteur. Et en même temps, toute la fin du film, avec un personnage qui abandonne les voitures pour prendre un cheval et finalement régler ses comptes au milieu d'une rue, presque dans une configuration westernienne de duel. Et puis il y a la musique de Tangerine Dream, et puis énormément de choses. Et dans les bonus, on a Catherine Bigelow à la sortie du film dans Rapido, et on a Catherine Bigelow et tout le cast en 2002 dans un grand making-of rétrospectif qui est assez passionnant et qui permet de faire le lien avec ce qui était devenu entre-temps Catherine Bigelow.
Juste un dernier mot, ce qui est fascinant, c'est que c'est son vrai premier film, et en fait quand on est critique, on a toujours cette tendance d'aller chercher dans les premiers films la matrice de l'œuvre à venir, et là on a la matrice totale, puisque l'œuvre de Bigelow, c'est quoi? C'est la question de l'aliénation, de l'addiction plus précisément, et là c'est le vampire qui suce, et la question de la marginalité. Ces deux thèmes-là sont les thèmes centraux de Near Dark, qu'on retrouvera dans toute sa filmographie, de Zero Dark Thirty à Point Break jusqu'à Detroit.
Si on vous confie une collection, Philippe Royer, le premier titre que vous sortiriez? Hop.
Justement, là, ce Petri que j'arrive pas à voir et que j'aimerais t'en voir.
Make My Day, cette fois c'est bon, de Jean-Baptiste Théret, une collection cinéphilique numérotée avec des bonus extraordinaires. Chez Studio Canal, Max Mon Amour, Near Dark, Six Femmes pour l'Assassin, Sommébile Apparent et La Mort a pondu un œuf. Walks into Sam's bar. She pulls out her bag and rustles through what receives. She can't shake the feeling. She's made some mistake that escapes her mind. Uneasy grab, something's not. Le choix de Laurent Polleret pour Mauvais Genre, tous les renseignements disponibles sur notre site. Alors, En d'autres temps, Bogdanovich aurait eu 2 minutes, il en a 5 aujourd'hui, nous avons fait des progrès, Philippe Rouillet.
Oui, et puis surtout, bah, c'est la chance que, pour les cinéphiles français de vivre un moment Bogdanovich, parce que mercredi prochain ressort en salle Saint-Jacques, qui était sorti en 79, Jacques le Magnifique, et qui depuis était quasiment invisible. Et pour ceux qui n'auront pas un cinéma qui passera, parce qu'évidemment, il ne va pas y avoir 1000 copies France, hein. Donc pour ceux qui n'auraient pas un cinéma près de chez eux, bah, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, Carlotta propose le film en Blu-ray et DVD. Hein. Donc c'est assez formidable. Dans la foulée, ils sortent la dernière séance, Last Picture Show, autre grand film emblématique de Bogdanovich. Et puis, il y a la publication d'un roman de Bogdanovich. Et puis surtout, le livre d'entretien fait avec Jean-Baptiste. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, Peter Bogdanovich, dans la cinéphilie française aujourd'hui, c'est quelqu'un d'un peu oublié. C'est en partie à cause de l'accès au film, qui est très compliqué. Vous regardez en termes d'édition vidéo, les éditions de La Cible et de La Barbe à Papa sont bien lointaines.
Alors, La Cible, film qu'il a fait avec Boris Karloff.
Qui est son premier film, voilà. Produit par Roger Corman.
Et La Barbe
Corman,
à Papa avec Tatum.
Et Ryan O'Neill. Et c'est à peu près tout. Dans Make My Day, on aura en novembre, c'est un scoop qu'on peut annoncer, Nicolas Déon dans sa version Director's
Cut.
Sorti
le 28 novembre.
C'est-à-dire en noir et blanc. Hein, parce que c'était une bataille contre les studios. Et ce qui est important, c'est que dans ce livre d'entretien, qui est tout à fait passionnant, avec de beaux documents, mais et qui ne respecte pas la chronologie, c'est un livre d'entretien qui a été commencé en 2009 et qui se termine aujourd'hui en 2018. C'est-à-dire que c'est 9 ans de rencontre entre vous, Jean-Baptiste, et Bogdanovich. Et là encore, vous avez laissé un peu dans son jus. C'est-à-dire que il y a des moments où Bogdanovich dit, on disait quoi la dernière fois, on en était où, et vous vous dites, bah c'est le moment de revenir sur ce moment-là. Et bon, Saint-Jacques est vraiment un film qui est un peu au cœur de ce livre, parce que je pense que quand on aime le cinéma de Bogdanovich, c'est peut-être son film à la fois le plus libre et donc le plus proche de son cœur. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, il a commencé sa filmographie en 68 en tant que réalisateur avec La Cible, produit par Corman. Après, il a travaillé pour les studios, et à un moment où ça commence à moins bien aller, parce que avec les studios, quand vos films marchent moins, il retourne voir Corman pour faire Saint-Jacques avec Ben Gazzara. Et ce qui est formidable, c'est que c'est un film qui se passe à Singapour, avec Ben Gazzara qui veut monter sa maison close. Il a des problèmes avec la mafia locale, donc on a tout pour avoir un film de gangster, finalement le film rip vers autre chose, et ça devient une espèce d'interrogation presque métaphysique sur l'amour, la vie, la liberté, qui est rythmée par l'amitié que lie le personnage avec un diplomate qui est joué par Denham Elliott, qui vient 3 fois dans le film lui rendre visite à Singapour. Et puis il y a Bogdanovich lui-même qui joue un agent de la CIA qui va être une sorte de déclic qui va révéler à Gazzara sa véritable nature.
Alors, ce qui est extraordinaire en Saint-Jacques, c'est que ça m'a fait vraiment penser à un célébrissime manga de Taniguchi, L'Homme qui marche. Pendant 50 planches, Taniguchi ne nous montre jamais qu'un homme qui marche, qui sort un peu, qui sort sa vie de ses gonds et qui entame une sorte de déambulation. Et là, c'est pareil, effectivement, on avait tous les éléments scénaristiques pour avoir un film de genre, violent, sanglant, à coup d'adrénaline, truc extrêmement pénible à voir, enfin je veux dire. Et en définitive, on a une espèce de désespoir sur coussin d'air, de grande déambulation métaphysique sur la fin des empires, c'est la fin de l'empire anglais. Il y a une scène hallucinante où on voit 4 diplomates anglais qui chantent un cantique de William Blake, mais qui c'était des automates rouillés. Et là, on se dit, c'est fini les colonies anglaises, c'est la fin. Même chose pour les Américains qui quittent le Vietnam avec Bogdanovich qui joue le rôle d'une sorte de monsieur des... un casseur de bras de la CIA, des services secrets. Et tout cela est pris dans une espèce de touffeur, de lenteur, de mélancolie et de désenchantement. C'est un film extraordinaire.
Moi, je voudrais, Jean-Baptiste, que vous reliez ça au titre de votre livre, Le cinéma comme élégie. Pourquoi avoir choisi ce titre pour parler de Bogdanovich?
Alors, c'est intéressant que vous me disiez ça, Philippe, parce qu'en fait, je vous sens... la première fois que je rencontre Bogdanovich, c'est en 2009, et on commence, en fait, l'idée germe, parce que l'entretien se passe plutôt bien de faire un livre, etc. Et en fait, je trouve le titre assez vite, au bout de 2-3 semaines. Et je lui dis, Peter, voilà ce que je pense, le cinéma as elegy. Et lui a tout de suite adoré, en fait, le titre. Il m'a dit, c'est exactement ça, c'est comme ça que je ressens les choses, etc. Donc pour moi, l'élégie, le sentiment élégiaque, c'est ce qui parcourt tous les films de Peter Bogdanovich, que ce soit à ses débuts, à ses moments de gloire, Last Picture Show, What's Up Doc, La Barbe à Papa, à ses moments même d'échec, Daisy Miller, etc., Saint Jack, Mask. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est un cinéma. En fait, le cinéma de Bogdanovich, en deux mots, c'est que c'est un cinéaste qu'on connaît pas bien aujourd'hui. Aussi parce qu'il occupe une place toujours à part dans Nouvelle Hollywood. Il y appartient sans y appartenir. On sait pas vraiment comment le situer par rapport à ses collègues. Et puis enfin, c'est un cinéma, en fait, qui est obsédé par la question de ce qu'on a perdu. Voilà, c'est pas un cinéma nostalgique, c'est autre chose. Mmh. C'est qu'est-ce qu'on a perdu. Dès qu'il attaque un sujet, Saint Jack, c'est ça aussi. Hein, ce qui provoque l'élan de Bogdanovich, c'est toujours finalement, mais qu'est-ce qu'on a perdu.
Une émission que nous achevons bien sûr en compagnie du Maître Beer.
Veste en jean déchirée, ouverte sur la poitrine, short ultra court attaché avec une corde. Poignard battant la cuisse, rousseur échevelée, Désiré Thibaudot règne sur les bayous. Elle capture les serpents sillonnant les eaux sombres de son royaume farouche. La fille sauvage, à l'accent sudiste traînant mais avare de grandes phrases, ne craint pas les cinq pecnos qui la traquent, joue avec leurs nerfs, les attire dans des pièges boueux et les anéantit l'un après l'autre, aussi piètre prédateur que les crocodiles qu'elle braconne à main nue. Nous croupissons dans les remugles saumâtres de la exploitation la plus fruste. Autrement dit, le film de Bouzeux, cinéma vicié de la dégénérescence rurale auquel appartiennent Massacre à la tronçonneuse et Délivrance. Gator Bait, alias Les Marais de la haine, tourné en 1974 à la frontière entre le Texas et la Louisiane, est l'œuvre phare de Ferdé Beverly Sebastian, couple de cinéastes pragmatiques, conscients de ses limites, ciblant le public rustre des drive-in. Il leur offre un argument imparable. Claudia Jennings, la Playmate 1970 de Playboy, bientôt White Trash Girl de série B hargneuse. Mais le message est clair. Même en fille des marais, la pin-up n'est pas pour vous les gars, ou vous y perdrez les couilles comme l'un de ses agresseurs. Au cœur de la misogynie pesante du cinéma d'exploitation, des femmes de tête s'imposent d'un féminisme peu sophistiqué. L'ambivalence du public réclame aussi ses figures castratrices. Reçu par Walt Disney, le jeune Ferd avait obtenu du milliardaire le secret de la réussite, faire des films avec du sexe et de la violence, affirmant, devant l'étonnement du débutant, que Bambi reposait sur ses deux piliers. Tourné en 10 jours, Gator Bait suit le précepte. Son succès appelle un second volet, La vengeance de la femme au serpent, sans le magnétisme ombrageux de Claudia Jennings, décédée à 29 ans. Artus Film lance une collection Redneck avec ses deux titres, accompagnés de bonus passionnants et même déconcertants sur les Sebastian. Retraité du cinéma installé en Floride, il délivre des anecdotes de tournage, Larry Flex 35 mm fièrement posé sur la table. Beverly a créé une fondation pour les vieux lévriers de course qui apportent leur amour inconditionnel auprès de la population carcérale, tandis que Ferd, qu'un cancer condamnait, a guéri en priant Jésus. Born again Christian, chrétien régénéré, il aide à son tour les autres à guérir. S'il accepte enfin de rééditer ses films, si peu tolérables pour Jésus, c'est pour délivrer en bonus de chaque DVD ce message de foi « Vous avez la force de Jésus en vous ».
Merci Christophe Beer, merci Jean-Baptiste, merci d'avoir fait escale ce soir à Mauvais Genre, et puis à très vite.
Absolument.
Il y a tout un tas de sujets à évoquer, notamment les prochains films de Make My Day. Je rappelle en tout cas les premiers disponibles, Max Mon Amour d'Oshima, Near Dark de Catherine Bigelow, Six Femmes pour l'Assassin de Mario Bava, Sans Mobile Apparent de Philippe Labro, et le 30 octobre, La Mort à Pendu à l'œuvre de Giulio Questi, puis le 28 novembre, Nickelodeon de Bogdanovich, dont on vient de parler, et le 5 décembre, alors là, grand événement,
L'événement absolument.
Mandingo de Richard Fleischer, et puis à lire, parce qu'alors là, grand moment aussi de dialogue, d'expérience et de confrontation cinéphilique et existentielle, cinéma comme existence, le cinéma comme élégie, conversation avec Peter Bogdanovich, un livre de Jean-Baptiste Toré, c'est aux éditions Carlotta, et puis de notre amie Anne-Margot Rammstein, Otto, l'île au miroir, aux éditions 2024, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pierre Montet, Siam Boutata, Claire Martin Dugard, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Christophe Bir et François Angelier, vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Bernard Joubert pour une histoire de la bande dessinée érotique mais clandestine. Et d'ici là, bonne nuit à tous.